un podcast France Culture.
Les pieds sur terre, Sonia Kronlund.
D'un côté, il y a Créon qui défend l'ordre et la loi, et in fine, quelque chose comme son bonheur, son confort quasiment. Créon, le roi, pragmatique, terrien, réaliste. De l'autre, il y a Antigone, exaltée, qui se bat seule contre tous, pour l'honneur de son frère, pour lui donner une sépulture digne, malgré l'interdiction du roi Créon. Antigone, qui veut l'enterrer au prix de sa propre vie, au risque de mourir pour aller jusqu'au bout de sa volonté, de son idéal. Vous me dégoûtez tous avec votre bonheur, avec votre vie, qu'il faut aimer coûte que coûte. On dirait des chiens qui lèchent tout ce qu'ils trouvent. Moi, je veux tout, tout de suite, et que ce soit entier ou alors je refuse, dit-elle dans l'Antigone d'Anouilh à Créon son oncle. Antigone irréductible, insoumise, révoltée, pour de bonnes ou de mauvaises raisons, pourrait être le modèle des deux histoires qu'on raconte aujourd'hui dans Les Pieds sur Terre, intitulées « Irréductible ». Deux batailles contre des géants, deux jusqu'au boutisme pas encore tragiques heureusement, dont nous allons essayer de comprendre le mécanisme, sans forcément, je le précise, épouser leur combat. Deux récits de Sophie Simoneau, tout de suite pour vous.
Je m'appelle Michel-Ange Flory. Avant, je disais je suis afficheur, maintenant je dis je suis affichiste. Je suis né donc il y a 62 ans en Algérie. Mon père était berger jusqu'à l'âge de 18 ans. Il a fait une carrière de policier. On a été 5 ans à La Réunion jusqu'à l'âge de 10 ans. Et aujourd'hui, j'habite à Olioul, dans le Var, à côté de Toulon. J'ai toujours été cascadeur. Cascadeur, eh bien, c'est... vous avez 16 ans, vous allez à la pizzeria, vous n'avez pas l'argent pour payer la pizza, vous la mangez, vous partez en courant. C'est ça, cascadeur. Voilà, je pense que voilà, c'est pas à recommander, hein. Mais je faisais partie des meneurs, quoi. Hein. Voilà, j'aimais ça d'ailleurs. À 16 ans, je dois vous dire que je pensais faire ma vie dans les Antilles, mais ça s'est pas passé comme ça. J'ai passé mon bac, je l'ai raté parce que je pensais plus aux zouks et aux langoustes. Je l'ai raté et papa m'a dit, devance l'appel, tu te débarrasses de l'armée. Je pensais que j'allais rester à Pointe-à-Pitre. Il m'envoyait à Évreux. Donc, et après l'armée, eh bien, j'avais pas d'argent. Donc mon père m'a dit, écoute, si on allait voir Cutoli. Cutoli, il travaillait à Pôle emploi. C'était un compatriote à mon père. Et je me souviendrai toujours de ce moment-là de ma vie. Je rentre dans son bureau avec mon père. Et il me dit, oh Flore, et tu tombes bien. Va à l'affichage toulonnais. Il cherche un métier, ça va te dépanner quelques mois. J'y sais quoi ? Il me dit, c'est pour mettre des panneaux dans les jardins, sur les façades de maisons. Voilà, vous allez chez les gens, vous dites, bonjour monsieur, madame, je voudrais mettre un panneau là, dans votre jardin, ou sur la façade, là, vous voyez, sur la façade, à côté de la fenêtre. Oh non monsieur, non, puis il faut que vous allez rentrer chez moi pour changer, etc., etc. Donc c'est difficile, parce qu'il faut les convaincre. Il faut mettre en avant que la somme versée va effacer les nuisances. L'idée c'est de louer un emplacement et de le relouer ensuite. Le jeu, c'est de le louer beaucoup plus cher aux commerçants, à des enseignes. Et donc, je suis obligé de vous essayer, me dit-il. Il ne me voit pas pendant 8 jours. Et quand je suis revenu, j'avais trouvé 21 personnes qui ont accepté de mettre un panneau dans leur jardin ou sur leur façade de maison, ce qui était un record. Et je suis devenu afficheur. Je travaillais avec beaucoup de facilité. J'avalais les kilomètres, j'avalais les rendez-vous, j'avais une force de convaincre qui passait par-dessus tout. J'étais imbattable. J'étais imbattable. Et un an et demi après, je crée mon entreprise. Une entreprise d'affichage. Et ça a marché. Marché, est-ce que je pourrais vous parler en voiture ? Marché, vous allez avoir deux voitures à 100 000 euros. Flory, tu as vu Flory, il paraît qu'il a 200 costumes. Flory, il a 8 montres. C'est pas ce que je recherchais. Mais c'était la conséquence d'une réussite hors norme. Pour un fils d'ouvrier, ouvrier moi-même, petit-fils d'ouvrier, etc., etc. Donc j'étais tout de suite propulsé en haut. J'avais 500 panneaux entre Bandol et Antibes. J'étais le pirate de la côte. Mais j'ai été chanceux, hein. Et j'ai arrêté. Et donc j'avais à la session de l'entreprise, j'avais 57 ans. Et j'ai gardé deux panneaux pour ma communication personnelle. En entrée de Toulon et sortie de Tifour, direction la Seine. Ces deux panneaux qui se trouvent à gauche lorsqu'on roule. Et ce sont des zones fortement urbaines, ils voient 50 000 voitures par jour, les deux emplacements. Voilà. Tout le monde les connaît maintenant. Bah, une affiche, vous savez, c'est pas plus compliqué que de marquer au champ à 300 mètres. Hein. Commander le texte et les images auprès de graphistes qui mettent en page ce que je leur demande de faire. Et ensuite, on les fait poser. Peu importe le contenu, c'est toujours la même pose. Hein. Depuis 2010-2012, j'en ai fait 200 environ. Alors, vous savez, il m'en vient quelques-unes comme ça à l'idée. Ça peut être Emmanuel Macron donne l'autorisation aux pauvres de fouiller les poubelles, ou Emmanuel Macron exempte les SDF de la taxe d'habitation. Parce que je me souviens aussi que Macron avait dit que, lui élu, il n'y aurait plus de gens qui dorment dans la rue. À quoi ça sert de faire des promesses qu'on ne tient pas? Ça finit de décrédibiliser les engagements et la parole en politique. Vous voyez, ça peut être des choses comme ça, quoi. Ça naît de l'observation de la vie politique, tout simplement. Ben, elles ne sont pas toutes drôles, hein. Macron n'a pas d'enfant, il veut piquer les nôtres. Je fais référence, bien sûr, au vaccin anti-Covid. On nous a tellement expliqué que il n'y aurait pas de vaccination obligatoire. Pas de piqûres, puis des piqûres pour les enfants. Pas de passe sanitaire, puis de passe sanitaire. Pas de masque, puis des masques. Tout ça est arrivé de manière kafkaïenne et inorganisée. Je trouve ça insupportable. Les gilets jaunes, oui. Non, mais à un moment donné, donc, je disais, pour supprimer les gilets jaunes, supprimons les ronds-points. Je donne des idées au pouvoir. Ou alors, tiens, celui-là, là. Il faut tuer les vieux à la naissance. Ils vont bien finir par signer la retraite à 67 ans. Voilà. Ça me paraît être un bon résumé de mon action directe. Je me sens solidaire des plus pauvres d'entre nous, parce que j'ai été pauvre et que je connais la difficulté de se demander si je vais pouvoir arriver jusqu'à la maison avec l'essence qui me reste. C'est ça la pauvreté. Et du coup, je me suis toujours senti plus proche de ceux qui n'ont rien que de ceux qui ont tout. J'ai toujours été insupporté par les rentes de privilèges. Heureusement qu'il y a des gens qui dénoncent ce genre de choses. Mais c'est pas facile, hein. Ben, c'est pas facile, vous êtes intimidé. J'ai été au tribunal. Ben, j'ai fait un jour une affiche sur les syndicats de police, vous parlez tous les jours sur BFM. C'est une affiche de mai 68, un casque de CRS stylisé. À l'époque, en 68, c'était la police vous parle tous les soirs à 20h. Et moi, j'ai repris la police vous parle tous les jours sur BFM TV. Le juge, il m'a collé 32 000 euros en quelques minutes parce que j'avais utilisé le logo BFM. Mais le logo BFM, comme le logo Renault, comme le logo Pathé Cinéma, il n'y a d'usage du droit de la marque que si vous l'utilisez dans un objet économique, c'est la loi. Or moi, il ne s'agit pas d'un objet économique, il s'agit d'une caricature. Je ne vends pas des t-shirts ou des stylos siglés BFM. Tout le monde comprend ça. Alors comme je dois déranger, on m'a fait la peau. Ça m'a révolté, mais ça ne m'a pas découragé. Ça m'a motivé. Le fait que l'on dise à certains de se taire, moi, ça m'est insupportable. On n'est pas tous fait pareil. Hein. On pourrait tous parler allemand aujourd'hui. Hein. C'est parce que des gens ont refusé. Moi, mon grand-oncle, il était aux commandes des bombardiers de la brigade Normandie-Yémen. Il a été abattu deux fois. Il est reparti à la nage deux fois voir le général de Gaulle à Londres. Berger, fils de berger. Joachim Simeoni. Il y a des gens qui ne se couchent pas. Quand on dit à des gens « traverser la rue pour trouver du travail » ou quand on dit à des gens, en parlant d'eux, ceux qui ne sont rien, ou quand on dit à des gens en envoyant un SMS comme l'a révélé le journal Le Point, c'est Macron qui crie à Véran « on les aura tous ces connards », j'estime que la violence, elle n'a pas besoin de m'attendre sur les affiches. Hein. Elle est là, hein. Elle est au sommet du pouvoir. Hein. Donc j'agis par moi-même, je dénonce, je caricature, je pastiche, je risque les poursuites. Donc des avocats, donc des frais, donc des soucis, des ennuis. Donc, voilà. Mais je ne supporterai pas qu'il m'ait eu. Je gagnerai, je lâcherai rien. Donc je prendrai dans ma caisse, hein, voilà. Mais payer, ça veut dire perdre. Et j'ai pas perdu. Parce que aujourd'hui, on me dit plus, mais on a le droit de faire ça. Mais on me l'a dit tellement de fois. Vous vous rendez compte au niveau de réflexion démocratique des citoyens de notre pays ? Eh bien, maintenant, je leur donne la démonstration que ce n'est pas facile. Mais je me bats pour ça. On m'a reproché d'exposer à la vue du public mes opinions. Et moi, je réponds, mais alors, vous voulez que je marque Auchan partout, Carrefour partout ? Là, ça ne vous pose pas de problème. Voilà, c'est aussi bête que ça. C'est ça, la société d'aujourd'hui. On a le droit de dire Carrefour, Auchan, Leclerc. Mais si vous voulez donner votre opinion, ben non, ça s'appelle imposer votre avis. Et moi, je leur dis à ces gens-là, tout homme a droit au respect. Mais celui qui est élu et qui devient le premier personnage politique du pays et public du pays, il doit s'attendre à être grimé, moqué, caricaturé. C'est la vie publique. Elle ne peut pas être dure que pour nous. La vie.
Alors, je m'appelle Véronique, je vis à Saint-Malo et voilà, je suis artisan coiffeur et je pratique le même métier depuis 44 ans. Dans la ville close, à l'intérieur des remparts. Il y a toute une histoire qu'on fait ici. Mes parents vivaient aux alentours, en périphérie, en campagne. Moi, j'ai eu envie de travailler tout de suite dans la cité corsaire, en fait, comme un cocon, avec des murs protecteurs. Et à l'époque, il y avait beaucoup de salons de coiffure, comme beaucoup d'habitants. Donc j'étais passionnée par mon travail. Et c'est ici que j'étais attirée. Forcément, travailler dans une forteresse à 16 ans, qui était quand même très, très animée, très fréquentée. Moi, ça me paraissait magique, quoi. J'arrivais souvent un petit peu plus tôt. J'allais voir la mer. À l'époque, j'avais un Polaroid, donc je prenais des photos. La brume le matin sur la plage. J'allais travailler après. Le midi, bon, je me retrouvais dans un petit bar à croiser des gens du quartier. Donc, les policiers passaient prendre leur café, leur petit verre. Il y avait les gens qui travaillaient aux impôts. Il y avait l'école de la marine marchande. Donc, tous les marins qui venaient en cours et qui venaient de divers horizons. C'était un climat tellement agréable de vie de quartier, à 16 ans, de voir les RG débarquer avec leurs histoires, prendre le café au comptoir, voir le médecin. Donc, en fait, c'était une ville de personnages. Voilà, je crois que c'est ça qui me plaisait. Tous les gens que je croisais m'intéressaient, me passionnaient. J'adorais les observer. Ça paraissait pas une vie ordinaire pour moi, donc ça me plaisait. Ah bah oui, dès que j'ai pu à 18 ans, j'ai eu mon premier appartement, deuxième appartement, troisième appartement dans la cité corsaire pour vivre totalement dans la ville close. Donc, et à un moment, je me suis trouvée à l'étroit et l'idée est venue peut-être de chercher à acheter. Quand j'ai visité cet appartement, dans cette vieille maison, ça a été vraiment un coup de cœur.
France Culture. Les pieds sur terre.
Donc c'était une des rares bâtisses qui n'a pas été détruite pendant la guerre. On ouvre une vieille porte du 17e. Près d'un édifice assez spectaculaire, la cathédrale. Donc on se doutait qu'on allait entendre les cloches. Et donc, quand on voit les poutres, le bois, tout est biscornu, tout est, forcément, c'est un lieu qui est chargé d'une histoire, en fait, religieuse ou autre. Moi, elle m'a toujours fascinée, cette petite maison. Donc, c'est assez étroit, en fait. Un petit escalier en bois, un tout petit palier, avec deux portes, Ça s'arrête là. Donc, c'est une grosse promiscuité parce que c'est une maison qui a été divisée en trois appartements. C'est pas un immeuble lambda comme on peut trouver, On le sait quand on achète dans un endroit ancien que c'est pas une insonorisation parfaite. C'est un lieu ancien. Donc, tout s'est très bien passé pendant 22 ans. avec une propriétaire au rez-de-chaussée, moi au deuxième. Et entre les deux, on avait des locataires qui changeaient tous les deux ans, tous les trois ans, comme tout locataire. Et puis, cet appartement s'est trouvé en vente. Et l'appartement a été acheté par une personne. Bonjour, bienvenue, tout se passe bien. Et puis... sauf que moi, j'ai vu des gens arriver avec des valises. Je dis, tiens, à l'époque, je me suis dit, c'est peut-être de la famille ou j'en sais rien qui viennent. Bon. Et c'est à un moment donné, une personne qui venait, qui envahissait un petit peu le palier du rez-de-chaussée avec des bagages, tout un tas de chargements, de courses et tout ça. Et je dis, mais je me suis dit, qu'est-ce qui se passe? Et cette personne m'a dit, j'ai loué pour la semaine via Airbnb. Et alors, ça peut paraître drôle maintenant, mais à l'époque, Airbnb, ça ne me parlait même pas. Je ne savais pas trop de quoi il s'agissait. Donc, je me suis retrouvée assez vite à avoir une vie qui a changé. Rien que le fait d'avoir des gens que vous croisez tous les trois jours avec des valises, ce n'est pas du tout la même vie que de croiser un voisin qui rentre avec ses courses. Et en fait, quand vous avez un voisin, vous vous rendez compte que vous êtes habitué à des bruits. Il fait du bruit, il ne fait pas de bruit, on s'en fout. Vous êtes rassuré parce que vous savez qui est là. C'est le fait d'être sans arrêt confronté à des inconnus, des parfaits inconnus. C'est-à-dire que c'est la roulette russe. Des gens que vous ne savez pas comment ils vont se comporter, ils vous saluent pas, ils vous ignorent. Bien sûr, eux, ils ont loué, ils s'en foutent des gens qui vivent dans l'environnement. Donc, c'est tout le temps la surprise. Oh, super, les gens se sont bien comportés pendant trois jours, pendant une semaine. Alors, qui vont être les prochains? Quand vous rentrez dans cette petite copro avec un seul étage et un petit palier, c'est quand même votre espace intime. Le partager avec le monde entier, ça paraît plus logique, en fait. Parce que du coup, je vous dis, une semaine ne ressemble pas à une autre. Donc, comme dans un camping, c'est-à-dire, vous n'avez pas le même rythme de vie que des gens qui travaillent. C'est-à-dire, vous allez à la plage, vous rentrez tard, vous faites ou la fiesta dans le lieu. Enfin, j'ai pas choisi de vivre dans un camp de vacances. C'est pas du tout. C'est que, à quel moment, moi, on m'a posé la question. Votre vie va changer? Est-ce que ça vous dérange? Ça vous dérange pas? Comment je fais marche arrière puisque ce fait vous est imposé? Alors, il faut dire qu'en 2016, personne ne s'intéressait à ce sujet. Il y avait eu un article quand même dans l'Ouest France sur le phénomène de location de courte durée qui commençait. Donc, je l'ai accroché dans les parties communes pour intéresser la propriétaire, enfin celle qui était en train de transformer ma vie. Et donc, la seule réponse que j'ai eue, c'est un mot glissé dans la boîte aux lettres. Je suis propriétaire de mon bien, j'en dispose comme bon me semble. Et les seuls échanges qu'on a eus, éventuellement par courrier, c'était pour m'indiquer que cette personne avait travaillé dans un grand quotidien à Paris. Donc je pense que c'était avancé pour m'impressionner ou pour me dire, je suis quand même quelqu'un et je vais faire ce que je veux. Et donc, ce sera comme ça et pas autrement. Et puis, la chance, c'est que je vis là depuis très longtemps, que je fais des rencontres et qu'on me conseille. Et donc, j'ai eu la chance, moi, de tomber sur un juriste avec une forte personnalité qui m'a dit deux phrases. Il m'a dit, même seul, vous pouvez y arriver. Et montrer que le fusil est chargé avant d'appuyer sur la gâchette. Et donc là, j'ai eu la possibilité de rencontrer un avocat gratuitement parce que j'ai quand même des petits revenus. Et qui voyait ce qu'il était possible de faire. Et il m'a dit, va falloir assigner cette personne en justice. Bon, moi, ça ne me parle pas, forcément. Quand vous n'avez jamais été en justice, vous n'y connaissez rien. Bien sûr, à sa demande, il lui faut des preuves de ce que je vis. Bien sûr, on prend l'habitude quand même de prendre des notes. On commence à prendre des photos dès qu'on remarque quelque chose. Des photos des bagages qui traînent. Enfin, c'est un calvaire, quoi. Ça va être des gens qui vont remarquer les portes qui restent ouvertes. Si vous avez des amis qui sont là, puis qu'on entend des gens qui sortent, qui font la fête, qui font des gestes. Enfin, bon. Tout est noté tout le temps. Vous avez des attestations avec la date, l'heure, le jour, des faits circonstanciés, de ce que vous venez de constater. Vous finissez par vivre une vie d'enquêteur. Enfin, c'est pas une vie. Et tout le monde vous dit, mais vous n'y arriverez pas. En plus, c'est une journaliste, vous n'allez pas y arriver. C'est peine perdue. D'ailleurs, les agents immobiliers, certains que je croisais dans la rue, me disaient, vous ne pourrez pas aller contre. Oui, un jeune d'une agence immobilière m'a dit texto, si, vous ne pourrez pas les comptes, c'est comme ça que ça va évoluer, quoi, en fait. Le phénomène de tourisme de masse dans différents pays qui vient loger à la place de l'habitant. Ah bah oui, on m'a dit ça, on m'a dit, bah oui, dans toutes les villes, ce sera comme ça. Enfin, c'est quand vous avez déjà acheté depuis 25 ans et que vous devez commencer à être soulagé par votre crédit qui n'est plus payé, qu'on vous dit maintenant que vous arrivez à un âge où vous allez vendre et partir, parce que vous n'avez pas le choix, vous ne pouvez pas aller contre. Donc, bah, moi, je leur répondais, si, je peux aller contre. J'arriverai peut-être pas très loin, mais je peux aller contre. Pourquoi accepter quelque chose que vous ne voulez pas vivre ? Pour le plaisir de qui ? Moi, j'avais pas très envie de partir, non. J'avais pas décidé, après, à 45 ans, de dire, ben, je vais vendre mon appartement, je vais prendre mes enfants sous le bras, puis je vais aller vivre ailleurs, parce que cette personne a décidé de faire du business de son appartement et de faire de ma vie un enfer, quand même. Et c'est le début, enfin, pour moi, d'un combat. Enfin, au bout de 6 ans, l'audience est arrivée et la justice m'a donné raison. Elle a été condamnée pour le préjudice subi pendant la période où elle a pratiqué cette activité de location de courte durée. J'aurais pu me sentir soulagée, sauf qu'elle a vendu à d'autres propriétaires qui ont recommencé l'activité et mon calvaire a repris de plus belle. Alors là, c'est vrai que ça a été beaucoup plus compliqué pour moi, puisque le phénomène s'était largement développé à Saint-Malo et ça a été par le biais d'une conciergerie, donc des professionnels de la location. Et donc, ils remplissent le plus possible pour pas qu'il y ait de temps mort. Donc, il y a tout le temps des touristes à aller et venir et de plus en plus de courte durée. Et que là, du coup, vous avez du personnel qui va, qui vient entre chaque location. Mais vous devenez un peu le parasite hein, qui vient gêner les touristes. Parce qu'à partir du moment où vous ne taisez pas et vous dites que vous vivez mal et qu'il faut respecter les règles, vous dérangez dans le business, quoi. Donc, forcément, on m'a beaucoup malmenée. Des menaces verbales dans la rue, la voiture vandalisée, des agressions multiples de personnes qui, eux, veulent gagner de l'argent avec ce concept, des personnes d'agences immobilières. Disant que je devais partir, dégager de Saint-Malo, qu'à cause de moi la ville se vidait, alors que c'est pas, je pense pas que ce soit à cause des habitants que la ville se vide. Voilà, c'est des gens qui sont dans le business, qui sont dans la rentabilité, quoi, en fait. Moi, je n'y gagne rien, moi. Moi, j'y perds de l'argent. J'ai juste à vouloir préserver une ville qui est en train de se transformer en Disneyland, quoi. Je souffre de voir les quartiers se vider, de voir les salons de coiffure où je travaillais disparaître pour devenir des agences immobilières. Enfin, d'où vous voyez que c'est un plaisir de voir une parfumerie se transformer en bol breton fabriqué en Chine quelquefois. Ça veut dire que quelque part, on nous projette déjà à disparaître. J'ai des immeubles entiers où j'ai constaté qu'il n'y avait plus qu'un habitant sur 4 étages. Et plus vous devenez minoritaire, moins vous avez votre mot à dire. Pour moi, ce n'est pas supportable. Ce n'est pas à moi de partir. Et donc, je me suis mise à écrire une lettre assez poétique, en fait. Ni touriste, ni passager du vent, ma loin suit. Qui était un petit peu comme une bouteille à la mer. Et j'étais très surprise de voir que beaucoup de gens ont signé. Et donc, c'est ce qui m'a aussi incitée, au bout d'un certain nombre de signatures, de vouloir la publier dans la presse. Et donc, une personne a été touchée par ce courrier et est venue à ma rencontre. Et on a créé le collectif et ça a pris une autre ampleur. J'ai continué, moi, en parallèle, à étoffer mon dossier pour mon avocat et à côté, des actions pour le collectif, des réunions publiques, des rendez-vous avec les politiques. Et c'est difficile, quelquefois, de tenir sur la longueur et de se dire que, quelque part, le fait de tenir, c'est courageux. Et le fait de capituler soulagerait peut-être aussi la famille, quoi. Il faut quand même savoir qu'un lieu de vie, c'est un endroit où les enfants naissent et grandissent. Quand vous faites 30 ans de votre vie, ça veut dire que votre famille évolue là, grandit, vous faites vos premiers pas. C'est difficile de dire, j'arrête tout et je pars. Les deux sont difficiles, de rester c'est difficile et de partir aussi. Donc, oui, au niveau familial, c'est devenu un sujet tabou, quoi. Parce que c'est un sujet qui a pris toute la vie au quotidien, tous les jours, pendant des années et encore maintenant. Donc, quand vous vivez autre chose, c'est mieux, quoi. Vous faites tout un tas de choses. Et là, au lieu de ça, bah, vous êtes en train de, voilà, je suis en train de mener un combat, je suis en train de faire des articles de presse. Des personnes viennent m'interpeller dans la rue sur ce sujet où on m'agresse. Donc, c'est franchement pas agréable pour la famille proche. Donc, j'étais touchée, oui, une fois d'un témoignage de ma fille qui a quand même dit qu'elle était fière de ce que j'avais fait. C'est touchant par rapport à ce qu'elle a pu subir, quoi. C'est dur parce que de toute façon, vous êtes 6 ans, 7 ans sans partir en vacances, sans... voilà, sans vivre. Quand vous travaillez quand même, c'est aussi pour vous faire plaisir de temps en temps. Donc moi, je suis entourée de gens qui prennent des vacances et moi, je les regarde. Et là, je regrette, voilà, mais je ne suis pas la responsable de ce calvaire pour mon entourage. J'estime ne pas être la responsable. Moi, je suis la victime. Et puis, la justice m'a donné raison, une seconde fois. A fait cesser cette location de courte durée en admettant qu'il s'agissait bien d'une activité commerciale. Ils font appel de la décision, on verra la suite, quoi. Donc, l'histoire n'est pas tout à fait finie. Mais... jamais je me serais doutée de tenir aussi longtemps et que ça dure aussi longtemps et du coup de sensibiliser les gens. Rien n'était programmé. Moi, je n'avais pas conscience que j'allais contre un phénomène de tourisme de masse énorme, puisque je fais les choses sur mon chemin sans que ce soit prémédité, sans que ce soit calculé, sans qu'il y ait de stratégie. À chaque fois, on me disait, c'est le pot de terre contre le pot de fer. Alors, plus on me disait ça, plus je me disais, bah oui, je vais continuer. Donc, si on voit que le pot de terre peut quand même réussir à gagner quelques fois en justice, c'est que ça vaut le coup d'essayer quand même. C'est important, quoi, dans le parcours. Mais moi, c'est jour après jour. Je ne peux pas me projeter. Et mon parcours et mon chemin et le combat a été tout le temps comme ça depuis le début. C'est tenir une journée de plus, c'est tenir encore. Et puis croiser un voisin qui vous sourit, qui vous dit « tu vas rester ». C'est vrai que c'est... voilà, 4 décennies que je vis à Saint-Malo, je vais changer de dizaine et j'aimerais bien commencer à pouvoir continuer mon parcours sur le rocher un peu plus apaisé.
C'était Irréductible, un reportage de Sophie Simoneau réalisé par Jeanne Cherquefosse. Merci à Véronique, à Franck Roland du collectif Saint-Malo, j'y vis, j'y reste, ainsi qu'à Guillaume Grisel et à Michel Ange Flory. L'attaché de production des Pieds sur Terre, c'est Céline Paris. Notre stagiaire, c'est Rita Ruggirello.
Les 3-8, les durs droits sans enfants. Tiens, pot de voûte, mais où compte plus le temps. Malgré les durs, dans mon malheur, mille est là. Zamé en retard, même dans mon tracas. Mon peine devant, de mon moins mi cachette. De ma mi va devoir payer mon dette. Toute mon vie j'ai travaillé. Zori Kosa, moi la gagné. Toute mon vie j'ai travaillé. Demain peut-être m'y va aller. Toute mon vie j'ai travaillé.
Peut-être un des plus terribles dossiers d'infanticide jamais connus en France.
France Culture lance une nouvelle collection de podcasts originaux « Mécanique de la justice ». Chaque saison fait le récit d'un procès qui a marqué la carrière d'un de ses avocats. Première saison de cette nouvelle collection, l'affaire Dominique Cotteret.
Je crois que le jury populaire ne peut pas juger, en tout cas, c'est pas le sens du procès.
Mécanique de la justice, saison 1, le procès Dominique Cotteret. Un podcast de Franck Berton, réalisé par Éric Lancien, sur franceculture.fr et l'appli Radio France.